Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu.
Je le disais en entrant dans cette messe, nous approchons de la fin de l'année liturgique et donc aussi à la fin de l'évangile de saint Marc. Nous avions accompagné le Christ dans sa montée vers Jérusalem depuis plusieurs dimanches et il égrenait ses enseignements petit à petit avec les évangiles que nous avons entendus, l'évangile de Bartimée, l'aveugle de Jéricho qui avait été guéri, la rencontre avec le jeune homme riche, les deux frères Jacques et Jean qui voulaient les places plus honorable à côté de lui, qui voulait les places de pouvoir. Et puis, dimanche dernier, l'enseignement sur les 2 commandements. Le commandement numéro 1, l'amour de Dieu. Le commandement numéro 2, l'amour du prochain, les deux ne faisant qu'un. Et nous parvenons à ce récit de ce qu'on appelle le récit de la pauvre veuve, de la veuve aux 2 piécettes. Qui est comme la fin de l'enseignement de Jésus, qui est parvenu désormais au temple, et on est dans les derniers jours de sa vie terrestre. Très vite, il va souffrir la passion et être mis en croix pour mourir, pour offrir sa vie. Après ce passage de l'Évangile que nous lisons aujourd'hui, il y aura ce qu'on appelle la petite apocalypse, c'est-à-dire les enseignements de Jésus sur la fin des temps, sur le jugement dernier, qu'on retrouve aussi chez un Matthieu ou chez Luc d'une manière un peu différente. Mais donc la fin de l'enseignement de Jésus, et on pourrait dire que le passage de l'évangile d'aujourd'hui est comme une espèce de résumé, comme une espèce de conclusion à tout ce que nous avons entendu ces derniers dimanches. Et dans cette conclusion, le premier point qui nous marque, c'est le début de l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'horreur totale, l'horreur absolue de Jésus pour l'hypocrisie. C'était parmi les dimensions du premier péché, péché d'orgueil. Péché d'orgueil est aussi un péché d'hypocrisie, c'est-à-dire on joue les faux semblants. On voudrait se présenter devant les hommes au lieu de se présenter devant Dieu. Comme si c'était les hommes et au fond, comme si c'était surtout soi-même qui étions le juge définitif, le juge dernier. Est-ce que ce qui compte, c'est le jugement que j'ai moi, sur moi-même ou sur les autres, sur le monde et même éventuellement sur Dieu? Ou est-ce que c'est le jugement de Dieu sur moi, le jugement de Dieu sur le monde, le jugement de Dieu sur les hommes? Le jugement de Dieu souvent fait peur, c'est bien ce que cherchait le démon, Satan, en tentant l'homme et la femme. Il faisait croire à l'homme que Dieu était un juge impitoyable, que Dieu était un juge tyrannique. Et l'homme, d'ailleurs, ne s'y est pas trompé au moment où il a péché, le premier péché, il s'est caché. Il s'est caché aux yeux de Dieu parce qu'il a eu peur. Il a eu peur parce qu'il a découvert sa nudité. Si l'homme avait compris et si l'homme avait continué de croire, au contraire, que Dieu est amour, que Dieu n'est qu'amour, il se serait soumis avec joie au jugement de Dieu. C'est vrai, il n'y a rien de plus exigeant que d'être jugé par l'amour, mais en même temps, il n'y a rien de plus rassurant. Si je suis dans le péché, si je suis dans l'hypocrisie, si je suis dans l'ombre ou même dans les ténèbres, je redoute le jugement de Dieu, je redoute le jugement d'amour. Mais si au contraire je cherche à avancer dans la lumière, si je cherche à vivre dans la vérité, si je cherche à vivre dans l'amour et non pas dans la haine, si je cherche à vivre conformément à la loi de l'amour, alors je ne crains pas le jugement de l'amour, au contraire je le recherche, et c'est rassurant de savoir que c'est l'amour qui jugera le monde. Oui, il y a une justice, et oui, un jour, ceux qui sont dans les ténèbres du mensonge, dans les ténèbres de la haine, seront démasqués. Il nous arrive souvent de dire « il n'y a pas de justice ». Nous sommes choqués à juste titre par les méchancetés du monde, par les détresses du monde. Un jour, tout sera jugé au moment où le Christ reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Tout sera jugé à l'aune de l'amour et de la vérité. Moi, je serai jugé, tous seront jugés de cette manière. C'est la raison pour laquelle l'hypocrisie ne peut pas avoir de place. L'hypocrisie, c'est précisément ce qui me coupe de Dieu. L'hypocrisie, c'est ce voile derrière lequel je me cache aux yeux de Dieu. Mais Dieu voit le dedans du cœur. Rien, absolument rien, ne peut voiler le regard de Dieu qui connaît le secret des cœurs. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur des hommes. Je ne sais même pas tout à fait ce qui se passe dans mon cœur à moi. Mais c'est Dieu qui juge d'un jugement juste, d'un jugement droit. Et Jésus insiste encore aujourd'hui pour dire « Méfiez-vous des pharisiens, méfiez-vous des scribes, et surtout ne les imitez pas. N'imitez pas leur manière de vouloir se montrer, de vouloir briller aux yeux des hommes, de vouloir manifester leur puissance, leur grandeur, leur savoir, leur science. Heureux les humbles de cœur, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. » La condition pour suivre le Christ, on l'a vu amplement dans les enseignements précédents des dimanches qui sont passés, la condition pour suivre le Christ, c'est l'obéissance, c'est la confiance. C'est la confiance inconditionnelle dans le Seigneur. C'est la dépendance d'amour. C'est la dépendance d'amour qui me rend libre. C'est ça le mensonge premier, le mensonge de l'orgueil. C'est ça le piège tendu par Satan qui m'a fait croire qu'en étant indépendant, je serai libre. Et c'est exactement le contraire qui se passe. En étant indépendant, je perds ma liberté parce que je perds mon lien à Dieu. Et Dieu est la source de mon être, il est la source de ma liberté. L'indépendance, l'époux qui ne dépend plus de son épouse, n'est pas fidèle à l'amour, il n'est plus époux. L'épouse qui cherche à prendre son indépendance sur l'époux n'est plus épouse. Il faut l'autonomie, nous l'avons dit mille fois ici, il faut l'autonomie des cœurs, il faut savoir se débrouiller soi-même. Mais l'autonomie n'est pas l'indépendance. L'autonomie cherche à vivre et à vivre pleinement avec le jugement propre, avec la capacité de s'orienter. Mais ça n'a rien à voir avec l'indépendance, qui est cette espèce de soi-disant liberté qui en réalité est enchaînée à son propre moi, enchaînée à son ego. Donc la condition pour suivre le Christ, la condition pour être disciple, c'est de retrouver cette dépendance d'amour. Et pour retrouver cette dépendance d'amour, il n'y a pas 36 moyens. Il faut se déposséder de soi-même. Il faut se dépouiller de soi-même. Il faut se donner soi-même. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre, celui qui ne me préfère pas à tout le reste, celui qui n'est pas capable de rejeter même père et mère, enfants, frères et sœurs, terre, maison, etc., celui qui ne me préfère pas à tout cela, ne peut pas être mon disciple. Je ne vous demande pas de haïr père et mère et vos enfants, bien entendu. Je ne vous demande même pas de vous haïr vous-même, mais je vous demande de me préférer à tout cela. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Voilà le premier, le seul commandement, le commandement qui est au-dessus de tous les autres. Pourquoi ? Parce que c'est l'amour de Dieu qui ordonne toutes choses. C'est l'amour de Dieu qui fait que toute chose est à sa place. C'est l'amour de Dieu qui me relie vers le haut, qui me tient vers le haut, et toute chose retrouve sa place. Si au contraire, je m'attache à quelque chose qui n'est pas le plus haut, si je m'attache, pire encore, à des choses matérielles, alors tout est déséquilibré, ma vie ne tient plus, ma vie est bancale. Tu veux être disciple du Christ ? Alors il faut vivre la confiance, et tu ne peux pas vivre la confiance si tu ne te dépouilles pas de toi-même. Se dépouiller de soi-même, c'est se donner soi-même. Et voilà le thème plus profond encore de l'Évangile. Jésus était assis dans le temple, en face de la salle du trésor. Je regarde Jésus qui regarde. Jésus regarde les personnes qui déposent de l'argent dans le tronc du trésor. Il y a des scribes, des gens importants qui déposent des grosses sommes en étant attentifs à ce qu'on voit bien ce qu'ils déposent. En faisant des mouvements des froufrous, des tissus, des machins. Puis, il y a cette pauvre femme qui arrive, pauvre veuve, discrète, humble. Non seulement elle ne cherche pas à être vue, mais pour un peu, elle se cacherait aux yeux des hommes. Elle met ses deux petites piécettes. Et Jésus a cette réflexion, il a appelé ses apôtres, venez, venez que je vous dise, voyez cette femme qui est là, elle a mis plus que tous les autres. Matériellement parlant, non, elle a mis une toute petite somme, mais en réalité, elle a mis plus que tous les autres, parce qu'elle a pris non pas de son superflu, elle a pris sur son indigence. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit à propos du jeune homme riche, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Il te manque de manquer. Le jeune homme avait demandé à Jésus, que me manque-t-il encore, moi qui ai accompli tous les commandements? Je suis fidèle aux commandements, que me manque-t-il pour avoir la vie éternelle? Mais mon pauvre garçon, la vie éternelle n'est pas quelque chose qu'on possède. La vie éternelle est quelque chose qu'on reçoit. Et tu ne peux le recevoir que si ta capacité est ouverte à recevoir. Tu n'auras une capacité à recevoir que si tu es vide de toi-même. Et pour te vider de toi-même, il faut considérer tous tes biens, tout ce que tu possèdes, comme quelque chose qui n'est pas à toi, comme quelque chose qui, au fond, appartient à Dieu, appartient à la communauté des hommes. Vous voyez, tous ceux qui, dans le trésor, ont mis des grosses sommes, ils ont pris de leur argent, ils ont pris quelques billets dans leur poche. Mais elle, cette femme, elle n'a pas fait de calcul. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle aurait pu mettre un peu moins, et personne ne lui en aurait fait le reproche. Elle a pris simplement de sa pauvreté. Elle ne considère pas que l'argent qu'elle a, le peu qu'elle a, ne lui appartient. Elle considère que tout est à Dieu. Elle a le cœur pauvre. Elle a le cœur humble. Elle ne s'attache pas aux choses matérielles. Tout pour elle revient à Dieu. Tout vient de Dieu. Tout revient à Dieu. Elle a ce cœur ouvert. Elle a ce cœur libre. Et c'est vrai, Jésus en a fait la remarque souvent. C'est plus difficile pour les riches d'être généreux comme les pauvres. C'est vrai. Quand on a beaucoup, on a du mal à se défaire des choses. On a du mal à considérer que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, en réalité ne nous appartient pas, appartient à Dieu. Il faut bien, je l'ai dit mille fois aussi, il faut bien transmettre un patrimoine. Ceux qui possèdent un patrimoine, une richesse, un trésor, ceux qui possèdent une entreprise, ceux qui possèdent même une maison, un manoir, un château, il faut bien le transmettre aux enfants. Et c'est le bon Dieu lui-même préfère qu'on le transmette aux enfants plutôt que de le vendre aux Chinois. C'est une réalité évidente. Mais est-ce que vous considérez que c'est votre propriété sur laquelle on s'arc-boute, sur laquelle on se crispe? Ou est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, que vous avez le devoir d'entretenir, le devoir de faire fructifier, le devoir de faire grandir pour pouvoir transmettre plus encore que ce que vous n'avez reçu? Rappelez-vous la parabole des talents. Celui qui en avait reçu 10 en a gagné 10 autres. Celui qui en avait reçu un seul l'a caché jalousement parce qu'il s'est cramponné à son talent. Alors il a été sévèrement repris par Dieu. C'est en donnant tout qu'on devient libre. La veuve, la pauvre veuve, n'a même pas partagé, elle a donné. Regardez la veuve de Sarepta, celle dont on parle dans la première lecture. On dit souvent qu'elle a partagé avec Élie. Non, elle n'a pas partagé, elle a tout donné à Élie. Je vais faire le pain qui me reste, avec ce qui me reste, je vais le manger avec mon fils et puis après nous mourrons. Fais ce que tu as dit, dit Élie, et n'aie pas peur. Mais avant, fais-moi un pain avec ce que tu as. Autrement dit, cette pauvre veuve de Sarepta met tout ce qu'elle a pour Élie. Et de fait, parce qu'elle a donné, elle reçoit. Et elle reçoit sans cesse, sans que rien ne manque, jamais. Celui qui a le cœur libre, celui qui a un cœur de pauvre, ne manquera jamais d'aucun bien. La veuve de l'Évangile, c'est aussi évidemment le Christ. Le Christ est à quelques jours de sa passion. Et à travers le geste de cette femme, il se voit, lui, offrir sa vie pour son Père, par amour de son Père, offrir sa vie par amour de nous. Et on sait bien que le Christ va offrir tout, absolument tout. Il se donne tout entier sans rien garder pour lui. Il va donner jusqu'à la dernière goutte de son sang. Il va donner tout ce qu'il avait pour vivre. Son sacrifice est total, tellement total qu'il est fait une fois pour toutes, comme dit l'Épître aux Hébreux que nous avons lu. Ce passage de l'Épître aux Hébreux n'est pas très facile, mais on peut retenir ça. Le sacrifice du Christ, l'offrande du Christ, est une offrande totale. Et parce qu'elle est totale, elle n'a pas besoin d'être refaite plusieurs fois. Le Christ a tout donné une fois pour toutes. C'est un sacrifice perpétuel désormais, éternel, qui, à chaque messe, non pas est renouvelé, mais est rendu actuel, est rendu présent. Jésus regarde cette femme en pensant à sa propre passion, en pensant à ce qu'il va vivre dans quelques jours. Jésus ne peut pas regarder cette femme sans penser à sa mère. Le modèle des veuves, c'est bien la Vierge Marie. Joseph est mort déjà, Marie est seule, sans rien, elle est pauvre. Et on l'a souligné depuis le début de sa vie, elle est tellement pauvre de cœur, qu'elle a une capacité absolue à recevoir la grâce. Elle est pleine de grâce parce qu'elle est radicalement pauvre d'elle-même. Tellement pleine de grâce que la parole prend chair en elle. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Marie, c'est la figure de l'Église. La veuve, c'est aussi l'Église. L'Église après la résurrection du Seigneur, ou plus exactement, l'Église après l'ascension du Seigneur. L'époux est retourné s'asseoir à la droite du Père. Désormais, l'époux nous attend dans la gloire, et l'Église chemine dans l'histoire du monde comme une veuve. L'Église doit tout donner, l'Église doit se dépouiller d'elle-même. L'Église doit peu à peu s'appauvrir. Rien de plus contraire à l'esprit de l'Église que d'amasser de l'argent, que d'amasser des richesses. C'est vrai, l'Église possède un certain patrimoine dans les musées du Vatican ou ailleurs. Ce patrimoine, il faudra bien le léguer, il faudra bien le transmettre, il faudra bien l'entretenir. On dit, mais il n'y a qu'à vendre tout. Mais c'est une bêtise. Comment vendre des choses pareilles? On ne vend pas la chapelle Sixtine, on ne vend pas la basilique du Vatican. Il faut entretenir pour transmettre. Mais l'Église, la vraie Église des saints, que nous avons fêtée il y a quelques jours à la Toussaint, la véritable Église, elle a le cœur pauvre, sinon ce n'est pas l'Église. Est-ce que moi, membre de l'Église, j'ai ce cœur pauvre? Et puis enfin, on pourrait dire que la veuve, c'est aussi le Père. Dieu le Père qui donne tout, il donne son Fils. Il a tellement aimé le monde qu'il qu'il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Le Père donne tout, le Père n'a que son Fils, à qui il se donne tout entier. Le Père lui-même est offert radicalement dans le Fils, et il offre le Fils, il offre tout ce qu'il a pour vivre. Le Père, comme le Fils, sont radicalement pauvres, et l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, lui aussi est radicalement pauvre. Il ne parle pas de lui-même, il parle pour le Père et pour le Fils, par le Père et par le Fils. Rendons grâce au Seigneur aujourd'hui, dans ces derniers dimanches de l'année liturgique. Dimanche prochain, à la demande du Saint-Père, nous célébrerons la 8e journée mondiale des pauvres, les pauvres de cœur. Que cette journée nous stimule, que cet évangile aujourd'hui nous fasse réfléchir profondément. Quelle est notre attitude intérieure? Quelle est notre pauvreté intérieure? Demandons-le à la Vierge Marie, demandons-lui de prier pour nous aujourd'hui et à l'heure de notre mort.